Je pense que vous connaissez tous ici les sept merveilles du monde. Vous les connaissez? Non? En tout cas, vous savez qu'il y en a, que ça existe, qu'on en a pas. Oui, ça vous le savez, ça va, c'est déjà ça. Vous ne les connaissez pas, mais sachez qu'il y a une classification des sept merveilles du monde, des sept bâtiments les plus magnifiques, les plus extraordinaires du monde. Et il y en a eu deux. Donc il y a deux grandes classifications. Il y a une première classification, c'est la classification antique de l'Antiquité, les sept merveilles du monde de l'Antiquité, et puis les sept merveilles du monde d'aujourd'hui. Alors, les sept merveilles du monde antique, malheureusement, vous ne verrez pas bien, mais on essaiera de voir à peu près, rapidement. D'abord, il y a la pyramide de Khéops. Vous voyez, c'est une... Vous la voyez bien? Ou à peu près? Voilà, une pyramide. C'est la seule qui reste du monde antique. Donc, les six autres merveilles du monde antique n'existent plus. Elles ont disparu, elles ont été détruites, voilà, mais la pyramide de Khéops reste encore, ou on l'appelle aussi la grande pyramide de Gizeh. Alors ensuite, il y a les jardins suspendus de Babylone. Vous les voyez. Alors, ça, c'est une représentation parce que, on n'a pas de photo, il n'y avait pas de photo à ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas encore de smartphone et tout ça. Du coup, les gens se sont un petit peu inspirés de ce qu'on leur expliquait pour faire des représentations. Les jardins suspendus de Babylone, c'est magnifique, hein. Vous voyez, il y a de l'eau un petit peu partout. C'est vraiment très, très particulier. Troisièmement, la statue de Zeus à Olympe, en Grèce. Donc vous le voyez ici, encore une fois, c'est une représentation, c'est pas une photo, mais en tout cas, c'est la représentation de Zeus sur son trône, avec une épée dans sa main, avec un rideau, enfin, tout ce qu'il faut pour donner aux gens une vision claire de Zeus. Vous savez que c'est le grand dieu de la mythologie grecque, et les gens avaient besoin d'avoir une vision claire de qui c'était, de matérialiser. Et voilà la statue de Zeus à Olympe. Alors, il y avait le temple d'Artémis à Éphèse. Éphèse, vous savez que c'est une ville qui a existé, une ville biblique, mais une ville aussi où il y avait ce temple blanc, le temple consacré à Artémis. Alors, le mausolée d'Halicarnasse, c'est vraiment spécial, c'est un grand bâtiment, vous ne le voyez pas bien, mais en tout cas, c'est un bâtiment spécial, je ne sais pas dire ce que c'est, mais c'est ce qu'on appelle un mausolée, ou une mausolée peut-être, je ne sais pas. Alors, le colosse de Rhodes, si vous cherchez ça sur... Rhodes, c'est en Grèce aussi. Si vous cherchez le colosse de Rhodes sur Internet, vous allez en voir plein comme ça, mais tous différents. Encore une fois, parce qu'on n'a pas de représentation, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Alors chacun a dit, oui, il était comme ça, vous en avez certains où il tient le flambeau comme ça, d'autres où il tient devant, l'autre où il tient derrière. Et alors, on sait que c'était l'endroit où les bateaux arrimaient, et il y avait ce grande statue du colosse de Rhodes. Et enfin, le fameux phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, ça fait donc les sept merveilles antiques, les sept merveilles du monde. Alors, les sept merveilles du monde antiques, elles ont été acceptées par tout le monde, c'était une liste complète, faite, et c'était celle-là. Et maintenant, il y a les sept merveilles du monde moderne, du monde d'aujourd'hui, qui existent encore. Cette liste-là, elle a été faite par des gens qui se sont assis pour dire « Ah ben, qu'est-ce qui sont les plus beaux monuments du monde ?» Et ils ont choisi une liste au hasard. Alors d'abord, il y a la Grande Muraille de Chine. Qui a déjà été voir la Grande Muraille de Chine? Ah oui, mais elle est pas là. Elle est peut-être à la Grande Muraille de Chine d'ailleurs, hein, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la Grande Muraille de Chine, c'est vraiment imposant. Hein. C'est un bâtiment imposant, faudrait pas que ça se détache. Ensuite, la cité de Petria en Jordanie. Vous voyez que maintenant ce sont des ruines, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle la cité de Petria en Jordanie. Le Christ rédempteur à Rio de Janeiro. Vous voyez cette grande statue du Christ qui a les bras ouverts au Brésil et qui surplombe toute la ville qui est vue de très loin. Le Machu Picchu au Pérou. Le Chichen Itza au Mexique. C'est aussi une grande construction en hauteur, cette fois-ci. Le Colisée en Italie. Moi, je l'ai déjà vu, le Colisée. Je l'ai touché et j'ai écrit mon nom dessus. j'ai écrit « Mehdi was here ». En français, ça veut dire « Mehdi a été ici ». Voilà. Non, c'est une blague, hein, j'ai pas fait ça. Mais j'aurais bien aimé laisser ma trace quelque part sur cette terre. Comme ça, quand je mourrai, quelqu'un passera un jour et dira « Ah, Mehdi was here ». Bon. Et le septième, le Taj Mahal en Inde. Je crois que Philippe et Mathilde ont été cette semaine-ci là-bas et qu'ils ont même fait des photos dessus. Les sept merveilles du monde. Alors, ce matin, je voudrais partir d'un constat avec vous, c'est de nous dire que, très certainement, que nous n'aurons pas tous l'occasion de voir les sept merveilles du monde. Certains d'entre nous n'en avons vu aucune, et peut-être que nous mourrons sans jamais avoir pu aller voir une de ces merveilles-là, ça a été décidé par des gens, mais nous mourrons certainement sans savoir ce que c'est, sans avoir goûté à la beauté de ces endroits-là. Et aussi, non seulement nous n'aurons peut-être pas l'occasion de les voir, mais en plus, peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Peut-être que pour moi, le plus beau monument, c'est le Terri de Dompremi, ou peut-être que pour moi, le plus beau monument, c'est le bonhomme de neige que mon fils ou ma fille a fait. Quelque part, les sept merveilles du monde, c'est bien parce que ça reconnaît la merveille architecturale qu'il y a sur cette terre, et c'est bien qu'on puisse avoir des beaux monuments, mais malheureusement, c'est quand même des merveilles très éloignées de nous, très éloignées de nos réalités, de notre quotidien. C'est des belles choses dans les papiers, dans les documents, mais ce ne sont pas des merveilles qui sont tout auprès de nous. Ce n'est pas le camion de glace qui est tout près de nous. Et ce matin, je voudrais vous proposer sept merveilles du monde, encore des sept merveilles du monde, mais des merveilles du monde qui auraient la caractéristique d'être proches de nous. Des merveilles du monde auxquelles tout le monde aurait accès. Des merveilles du monde qui seraient essentielles pour nous. Plus des merveilles du monde lointaines, compliquées à aller voir, des merveilles du monde tout près de nous, auxquelles chaque être humain a accès, que chaque être humain peut toucher, et qui sont essentielles pour chaque être humain. Sept merveilles du monde. La première, la vie. Deuxièmement, l'air. Troisièmement, la lumière. Quatrièmement, la nourriture. Cinquièmement, l'eau. Sixièmement, le sang de Jésus. Septièmement, la vie éternelle. Première merveille, c'est la merveille que nous venons de célébrer avec Ambre, le miracle de la vie. On a beau s'accorder sur le fait qu'il y a des beaux monuments sur cette terre, le plus grand des miracles qu'il y ait, c'est la vie. Le miracle de la vie par lequel quelque chose qui n'était pas devient et par lequel un enfant est formé dans le ventre de sa mère pour devenir un être humain qui va grandir, devenir adulte, qui va être capable de penser, de réfléchir. Le miracle de la vie. Vous avez certainement vu le film « L'Odyssée de la vie ». Vous en avez déjà entendu parler, c'est un film où un bonhomme explique étape après étape la naissance ou la croissance d'un bébé dans le ventre de sa mère. La vie, c'est le point commun entre tous les êtres humains. Tout le monde, chaque être humain qui est sur Terre, a la vie. Nous avons la vie. Et trop souvent, la vie que nous avons semble tellement quelque chose de banal, quelque chose d'évident, quelque chose qui va de soi-même. Alors que c'est un véritable miracle. Non seulement la naissance, notre vie sur terre est un miracle, mais aussi chaque jour où le souffle de vie nous est renouvelé, c'est un miracle, c'est une merveille pour laquelle nous devons nous émouvoir. Et Jean-Pierre lisait tout à l'heure le psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors que je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » La vie, le miracle de la vie, le miracle de la naissance. La vie est un miracle. La Bible nous dit que en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. D'abord, nous avons la vie. C'est-à-dire que nous existons, nous vivons, nous pouvons entrer en relation avec les choses autour de nous. Nous pouvons entrer en relation avec le monde spirituel, nous pouvons entrer en relation avec le monde métaphysique. Nous sommes en vie, nous sommes des gens avec qui on peut avoir une relation. Deuxièmement, nous avons le mouvement, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire des choses, capables de réaliser des choses, de nous déplacer, d'accomplir, d'aller de l'avant, d'aller au travail. Nous avons la vie, c'est-à-dire que nous entrons en relation avec le monde, mais nous avons le mouvement. Nous pouvons nous déplacer, faire des choses, nous pouvons créer des choses. Et nous avons l'être. Nous avons la vie, le mouvement, l'être. L'être, nous existons. Nous existons. Ça peut paraître complètement ridicule, mais c'est une grâce de se dire « j'existe ». Et quand je dis j'existe, ça veut dire que j'ai une place dans la société, j'ai une place dans le monde. Chaque être humain qui naît, qui arrive à la naissance, a une place. Nous existons physiquement. Nous avons un corps. Nous avons un corps physique. On peut nous toucher. On peut nous brûler. Nous avons un corps. Nous avons une existence juridique, c'est-à-dire que nous existons comme des gens, des citoyens qui ont des droits, qui ont des devoirs. Nous existons dans la société. Le registre national tient notre nom. Nous avons un nom. Nous existons dans ce monde. Nous avons une existence spirituelle. Nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Et depuis notre naissance, nous sommes connus de Dieu. Dieu ne perd aucune miette de notre vie. Nous avons une existence familiale. Nous existons, nous sommes les enfants de quelqu'un, les parents d'un autre, le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un d'autre. Nous avons une existence sociale, nous existons dans la société. Que nous soyons travailleurs, que nous soyons chômeurs, que nous soyons étudiants, que nous soyons retraités, nous existons dans la société. La société doit tenir compte de nous. Premièrement, le miracle de la vie. Un miracle accessible à tout le monde, un miracle que tout le monde vit, une merveille que tout le monde vit, mais que très souvent, nous négligeons ou que nous oublions le miracle de la vie. Deuxièmement, même avant d'aller dans le deuxièmement, la vie, nous les êtres humains, nous l'avons, mais la vie, elle est aussi dans les végétaux, elle est aussi dans les aquariums, elle est aussi dans les végétaux. Nous avons la vie et le monde est vivant. Et vous savez, vous connaissez ces différents phénomènes fantastiques de la vie qui nous montrent à quel point la vie est une merveille. Par exemple, la croissance d'une plante, la formation d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est tellement magnifique, un arc-en-ciel. Un coucher de soleil, le développement du papillon qui était une larve et qui devient ceci et puis qui devient un papillon, la vue du ciel étoilé. Vous avez déjà fait ça, de rester chez vous, de vous coucher par terre et de regarder le ciel étoilé. Quelle merveille ! Yvan, il fait ça. Parce que, en fait, Yvan, la nuit, il ne dort pas, il étudie le recueil. C'est pour ça qu'il connaît tous les chants à l'avance. On n'a même pas encore terminé de dire le chant qu'il le sait déjà. Donc voilà, Yvan, il y a une partie de la nuit où il étudie le recueil et l'autre partie, il regarde le ciel étoilé. L'univers vu de la Terre. Oui, l'univers vu de la Terre, mais aussi la Terre vue de l'univers. Une éclipse. Il va y avoir un phénomène spécial cette nuit-ci, avec Jupiter et tout ça. Une aurore boréale. Que de merveilles auxquelles nous sommes constamment touchés. Ce ne sont pas des merveilles qui sont faites par l'homme, ce sont des merveilles auxquelles nous avons accès. Le miracle de la vie. Le miracle de la vie qui est sur cette Terre. Et c'est une merveille à laquelle nous avons accès d'une manière très limitée parce que nous ne voyons pas tout, mais il y a aussi l'univers, il y a aussi les planètes, il y a aussi les étoiles. Le miracle de la vie. Marie-Louise m'a expliqué que, et c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie, que quand les cosmonautes vont sur des planètes, parfois ils sortent de la soucoupe. Enfin non, pas de la soucoupe, de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? La fusée nucléaire, pour faire des réparations. Mais ils sont attachés par un câble, et donc ils sortent de la fusée pour aller faire les réparations attachées par le câble. Et parfois, la pression est tellement forte que le câble cède, et le gars est parti dans l'univers. On ne le retrouve plus. Ah, vous ne saviez pas ça ? Oui, mais moi aussi je suis tombé par terre quand j'ai entendu ça. Mais c'est pour dire qu'il y a une immensité qui nous dépasse. Il y a quelque chose d'immense qui est autour de nous, le miracle de la vie. Deuxièmement, le miracle de l'air. L'air, nous y avons tous accès, mais l'air est essentiel pour notre vie. L'air contient de l'oxygène, l'oxygène que nous inhalons, dont nous avons absolument besoin pour vivre. Personne ne peut vivre sans oxygène. D'ailleurs, vous savez bien que quelqu'un qui respire des fumées toxiques pendant quelques minutes peut rapidement mourir. Quelqu'un qui est privé d'oxygène, devant qui, si on met la main devant sa bouche et son nez pendant quelques minutes, mais après un certain moment donné, va perdre la vie. Essayez sur votre voisin quelques minutes, comme ça on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'air, l'oxygène, l'air que nous respirons, l'air que nous ressentons autour de nous, c'est un miracle. C'est un miracle parce qu'il est donné à tout le monde sans réserve. Pas besoin de le payer, pas besoin de l'acheter. C'est un air qui nous est donné et c'est un air qui est essentiel à notre santé. L'air, c'est aussi les mouvements de l'air, le vent. Et la Bible parle du vent comme étant souvent un symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui souffle. Non seulement l'air est un miracle, mais nous avons aussi le miracle d'être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui souffle dans le monde entier pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qui souffle au milieu de nous pour nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous fait nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Le miracle de l'air, le miracle du vent. Jean disait, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Lorsque nous sommes nés de l'Esprit, lorsque nous naissons, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, personne ne peut le voir, personne ne le peut toucher, mais il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il nous conduit, il nous dirige, il nous parle, il nous remplit. Et nous avons la grâce d'être constamment, sans cesse, en relation avec le Saint-Esprit, le vent. Troisièmement, la lumière. La lumière est un miracle. La lumière est absolument essentielle à notre vie. Nous avons besoin de la lumière parce qu'elle contient des vitamines, la vitamine D surtout. Et donc, quand on s'expose à la lumière du soleil, même si elle est voilée par des nuages ou autres, la lumière nous fait du bien. La lumière est importante pour la photosynthèse, pour les plantes, pour les différents animaux. Mais la lumière est par exemple aussi importante pour notre sommeil. C'est la lumière qui nous permet d'avoir une synchronisation de nos rythmes biologiques. La lumière du soleil permet aussi de garder une certaine température sur la Terre. Sinon, effectivement, nous serions sans cesse dans un glacier, ou alors, si le soleil était trop proche, dans une fournaise sans arrêt. Psaume 36, verset 9 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. » Par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière terrestre est un miracle, mais la lumière de Dieu est aussi un miracle pour nous. C'est une merveille. Jésus a pu dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous avons la grâce d'être conduits par la lumière du monde, Jésus, qui au milieu des ténèbres de ce monde, au milieu de la confusion, au milieu de la mort, au milieu de tout ce qui est caché, de tout ce qui est voilé, est une lumière qui permet à chaque personne qui met sa confiance en lui d'entrer dans des voies de lumière. La lumière, et vous savez à quel point nous sommes heureux quand il y a du soleil. Quand il y a du soleil, tout le monde est content. Il y a personne qui est triste, à part ceux qui sont allergiques ou ceux qui sont vraiment... les ermites et qui n'aiment pas tout ça, mais en général, nous sommes heureux du soleil. Le soleil met de la joie dans nos cœurs. Le soleil met de la paix entre les hommes. Le soleil réjouit nos cœurs. De la même manière, Jésus, cette lumière du monde, il vient éclairer nos ténèbres. Il vient éclairer les ténèbres de nos vies. Il vient éclairer nos obstacles, nos difficultés, la confusion, les choix que nous avons à faire. Jésus est la lumière du monde, il est notre lumière. Et nous avons cette grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, de dire, sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Où irions-nous? Nous serions complètement perdus. Remercions Dieu pour la lumière, non seulement la lumière du soleil, mais aussi la lumière qu'il nous a donnée, la lumière qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos vies, Jésus. Quatrième merveille du monde, la nourriture. Alors... la nourriture, c'est quand même une des choses auxquelles nous avons tous accès, mais une des choses dont nous ne pouvons pas nous passer, nous ne pouvons pas dire, moi la nourriture, j'ai pas envie, ça ne me dit rien. Même ceux qui n'aiment pas manger sont obligés de manger. Alors, peu de gens n'aiment pas manger, mais en tout cas, tout le monde doit manger. La nourriture, tout le monde doit manger pour vivre. Et non seulement la nourriture est indispensable à la vie humaine, elle est indispensable à notre vie, mais bien plus, la nourriture est une occasion de joie et de rassemblement pour les gens. Lorsqu'on fait une fête de mariage, on organise toujours une nourriture, il y a toujours un moment donné où on mange. La nourriture est essentielle pour nous, mais elle est aussi une occasion de réjouir les hommes, de rapprocher les hommes, de rassembler les hommes. La nourriture. Et sur le plan spirituel, les grands penseurs du siècle passé ont remarqué que dans l'homme, il y avait une faim de quelque chose. Tous les hommes ont faim de quelque chose. Nous avons faim, par exemple, d'être aimés. Tous les hommes ont faim d'être aimés. Besoin d'être aimés. Besoin d'être accueillis, d'être choyés, d'être aimés par quelqu'un. Jung a dit que l'homme a faim de sécurité, d'être dans un espace de sécurité où il puisse être sûr qu'on ne va pas le déplacer, le déranger, lui faire du mal. Adler a dit que l'homme a faim de signification, l'homme a faim de sens. Nous avons faim de non seulement d'amour, nous avons faim d'être aimés, nous avons faim d'être en sécurité et nous avons faim de sens. Et quand Jésus vient mourir à la croix, quand il nous manifeste l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons trouver cette sécurité dans son amour, cette sécurité dans sa présence, cette sécurité dans le sens qu'il donne à nos vies. Nous avons des besoins criants. Nous, l'être humain tel que nous le connaissons, nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Nous avons tous faim de quelque chose. D'ailleurs, quand on marche dans la rue, on voit que les gens courent après quelque chose, après du travail, après de l'argent, après de l'amitié, après de l'amour. Vous connaissez cette série qui s'appelle « Amour, gloire et beauté ». Nous cherchons l'amour. Ou alors nous cherchons la gloire, nous cherchons la beauté. Nous sommes sans cesse en train de chercher quelque chose. Nous avons faim. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je peux rassasier ta faim. Je peux rassasier ton besoin, ta recherche. Je peux pleinement la rassasier. Will Rogers a dit, trop de gens dépensent l'argent qu'ils gagnent pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et c'est quand même la vérité. Nous sommes sans cesse à la recherche de quelque chose. Dieu vient nous donner sa nourriture. La nourriture terrestre, celle que nous mangeons pour nous rassasier, mais bien plus, Dieu vient nous donner une nourriture qui nous rassasie, qui nous remplit, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Blaise Pascal a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu qui ne peut être rempli par autre chose et qui a été créé seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide, un trou qui a la forme de Dieu, que seul Dieu peut rencontrer. La merveille du monde de la nourriture terrestre, c'est pour ça que nous remercions Dieu à chaque fois que nous nous apprêtons à manger, pour dire « Seigneur, c'est une grâce, c'est une merveille que j'ai devant moi quelque chose à manger ». Mais c'est aussi une merveille que tu m'aies donné Jésus, le pain de vie, qui peut rassasier tous mes besoins, qui peut rassasier toute ma recherche de sens, d'amour, de signification. Jésus, le pain de vie. Cinquièmement, l'eau. Alors l'eau, effectivement, elle est essentielle à tous les humains, tout le monde y a accès. Et la vie ne peut pas se développer sur la terre en l'absence d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui va. Elle est indispensable à la vie, elle ne peut être remplacée par rien. C'est la grande caractéristique de l'eau, c'est que il n'y a rien qui puisse remplacer l'eau. Il n'existe pas quelque chose sur Terre qui puisse remplacer l'eau, que ce soit l'eau que nous buvons ou l'eau qui est utilisée. L'eau est particulière. Notre corps est fait de 60% d'eau, 60% de notre poids, c'est de l'eau. 2/3 de ce que nous sommes est fait d'eau. L'eau. Et nous avons besoin d'eau pour vivre, pour réguler notre température temporelle. Nous avons besoin d'eau pour nos reins. Dans la Bible, l'eau, c'est aussi l'image de l'Esprit dans lequel nous sommes immergés. L'Esprit Saint dans lequel nous sommes immergés. L'eau, c'est aussi l'image de la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous nettoie. L'eau, c'est aussi le symbole du lieu où nous allons puiser en Dieu tout ce dont nous avons besoin. Il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Aux sources du salut, vous puiserez de l'eau. L'eau, c'est donc cette image de ce qui vient nous remplir, de ce qui peut nous immerger, de ce qui peut complètement remplir nos vies. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Il a dit aussi, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Nous avons la grâce de boire de l'eau pour être en vie. Nous avons la grâce d'avoir de l'eau en nous pour être en vie. Mais bien plus, nous avons la grâce d'avoir l'eau de Jésus qui peut pleinement nous remplir, qui peut pleinement nous nettoyer, qui peut pleinement nous renouveler. L'eau de Dieu peut couler en nous. Et sixième merveille du monde, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une merveille du monde qu'on ne peut pas décrire. Le sang de Jésus, ce n'est pas comme tous ces monuments que nous avons vus. Ce ne sont pas des choses loin, c'est pas quelque chose d'aller qu'on doit aller chercher loin, qu'il faut aller chercher dans des lieux lointains. Le sang de Jésus est accessible pour tous les humains. Pour chacun d'entre nous, le sang de Jésus est présent. La Bible nous dit que le sang, c'est la vie. Et lorsque l'on parle du sang que Jésus a répandu, c'est l'image de la vie qu'il a donnée pour nous. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Il a donné la vie, sa vie, pour chacun d'entre nous. Il a rendu le salut disponible à chacun d'entre nous. Et ce sang purifie de tout péché, c'est un sang efficace. Il purifie de tout péché, de toute faute, de toute erreur. C'est un sang qui nous permet de tourner la page de notre vie, de recommencer dans une nouvelle vie. C'est un sang qui nous permet de laisser le passé pour aller de l'avant. C'est un sang dans lequel nous pouvons nous confier. Nous pouvons nous confier dans le sang de Jésus. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous savons que c'est par son sang que nous pouvons y aller. Un sang répandu pour tout l'univers. Quelle merveille que le sang de Jésus. C'est pas comme le Taj Mahal en Inde où il faut prendre 4 trains pour y arriver, un avion, 2 taxis, et puis après pour arriver là-bas il faut encore avoir des passes pour rentrer. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous est présenté comme étant l'occasion pour chacun d'entre nous d'être pleinement lavé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a versé son sang. Et si jamais nous connaissons déjà le Seigneur, ce sang est notre confiance, notre assurance. L'assurance que nous ne pouvons pas être démis de là où nous sommes. L'assurance que notre vie passée est bien passée, que nos fautes sont lavées et que nous pouvons être pleinement réconciliés avec Dieu. Et si nous ne connaissons pas le Seigneur, ce sang est l'assurance que nous pouvons entrer dans une relation avec Dieu en laissant le passé derrière nous. Comme ce chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer ». Balayer ta vie passée. Le sang de Jésus, c'est l'occasion pour chaque être humain d'une nouvelle chance. Mais le sang de Jésus, c'est aussi ce qui donne de la valeur à nos vies. Parce que c'est un sang qui a coulé et qui aurait coulé pour un seul d'entre nous. Ce n'est pas seulement le sang qui coule pour toute l'humanité. Ce sang-là, Jésus l'aurait versé pour un seul d'entre nous. Pour toi, pour moi, ce sang a été versé. Et ainsi, ce sang nous donne de la valeur. Il nous donne de la valeur parce que nous sommes le prix, nous sommes ceux pour qui le Fils de Dieu a donné sa vie. Quel que soit ce que nous avons été, ce que nous sommes, quel que soit si nous avons été aimés ou pas aimés, quel que soit si on nous a valorisés ou pas valorisés, en mourant sur la croix pour nous, Jésus, Dieu nous donne de la valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes dignes que quelqu'un meure pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, nous pouvons nous réjouir dans nos vies de tous les jours, de l'eau, de la nourriture, de toutes ces merveilles qui sont autour de nous, de l'air que nous respirons, tellement, tellement basique, mais tellement essentiel pour nous. Mais nous pouvons aussi nous réjouir du sang de Jésus, un sang qui nous lave, un sang tellement puissant, un sang qui crie pardon, qui crie réconciliation, qui crie renouvellement, qui crie alliance avec Dieu, et un sang qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. 7e merveille du monde, la vie éternelle, une vie ouverte pour tout le monde. Dans les temps passés, il y a un philosophe qui a dit que les croyants, c'était comme des gens qui ont besoin d'une béquille dans la vie. Donc un croyant athée qui a dit, ben oui, être croyant, en fait, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à marcher par eux-mêmes dans la vie, ils ont besoin d'une béquille. Et donc, voilà, quand un non-croyant se retrouve devant une difficulté, ben, il réussit à la vaincre par lui-même, mais le chrétien, il est tellement faible qu'il a besoin d'une béquille pour réussir à vaincre l'épreuve qui est devant lui. Mais nous ne croyons pas que Dieu est une béquille. Nous croyons qu'il est réellement ce Dieu qui se présente à nous comme étant celui qui nous accueille et qui nous soutient. Ce Dieu présent, ce Dieu vivant, et un Dieu qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Chaque être humain sait au fond de son cœur, chaque être humain a l'intuition de la vie éternelle. Alors, que le Seigneur nous aide à être émerveillés par tout ce que nous voyons au jour le jour, à être émerveillés sur le fait que nous sommes en vie, émerveillés sur le fait que nous pouvons boire de l'eau et vivre, émerveillés devant la nourriture que nous pouvons manger. Mais bien plus, soyons émerveillés par le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle. C'est une merveille que nous pouvons louer. Nous pouvons louer Dieu sans cesse des heures et des heures pour le sang de Jésus. Et si nous ne connaissons pas encore le Christ, nous pouvons lui ouvrir nos cœurs. Nous pouvons ouvrir la porte de nos cœurs et dire, Seigneur, je crois. Je crois que ton sang me lave. Je crois que la vie éternelle m'est donnée. Je crois, oui, que je peux entrer dans la vie que tu m'offres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.